L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de L'Or Photo. L'Or Photo, c'est ton magasin de photographie depuis 1938. Ils sont spécialisés dans l'impression et tout ce qui touche de près ou de loin à la photographie. Acheter sur Internet, c'est une chose, mais quand vient le temps d'avoir de bons conseils et du service de qualité, mais c'est chez L'Or Photo que ça se passe. Ils sont situés sur le boulevard Saint-Luc à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais tu peux également les visiter sur leur site web au lorphoto.ca. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue au Photo Podcast. Aujourd'hui à l'émission, on parle mode manuel sur les drones. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue au Photo Podcast. Mon nom est Jean-Rol de Dumouchel et aujourd'hui à l'émission, bien, on reçoit Yves Pinsonneau. Yves, bien le bonjour.
Salut Jean-Rol.
Ça va bien?
Ça va super bien, toi?
Écoute, Yves, dans un premier temps, j'aimerais ça que tu puisses te présenter un peu. T'es quelqu'un quand même qui est bien connu dans le domaine, mais c'est toujours bon de pouvoir se représenter adéquatement pour que les gens qui te connaissent pas puissent savoir à qui ils ont affaire.
Parfait. Essayer de faire ça modestement. la photo, pour moi, ça date du début presque des années 70. Donc, ça donne un peu en même temps mon âge, mais l'âge, c'est juste
22, oui, exact.
Et c'est ça, mais j'ai une carrière professionnelle qui a commencé en 1981, qui s'est arrêtée en 2017. Je dis bien que c'est arrêté, mais en réalité, je fais encore des contrats. Je peut-être choisis un peu plus mes contrats que je veux faire. J'ai ce loisir-là, puis en même temps, tu sais, c'est important de faire ce qu'on aime. Ouais. Fait que ce qu'on aime moins, on le laisse à quelqu'un d'autre qui, lui, va se faire les dents là-dessus. C'est comme ça, ça laisse la place aux jeunes aussi. Au travers de ça, ben, en ce moment, je travaille avec l'équipe de L'Or Photo à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai été avant ça avec l'équipe de l'Ozo pendant quelques années, jusqu'en 2016. Avant ça, entre 2004 et 2014 plutôt, j'ai été avec l'équipe de Photo La Plante. Donc, ça fait un bout de temps que je traîne mon affaire, là.
t'as eu le temps de te faire ton réseau puis de développer tes compétences. Aujourd'hui, on a un sujet qui est vraiment intéressant. Moi, je suis quelqu'un en photo qui travaille beaucoup en manuel, mais en drone, je vais être honnête avec toi, je l'utilise pas du tout.
OK.
Fait qu'aujourd'hui, ben, on en a la chance de pouvoir voir avec toi justement l'avantage du manuel sur le drone. Parce qu'on va se le dire, les appareils comme DJI font déjà des trucs assez performants en termes d'automatisation.
Exact.
Puis le truc est quand même assez poussé. Mais généralement, quand on travaille en manuel avec un appareil photo, on va travailler avec un trépied, on va travailler dans des conditions où est-ce qu'on maîtrise un peu la totale, ouais. Tandis qu'en drone, ben on a le vent, on a plusieurs éléments qui jouent un peu contre nous. Fait aujourd'hui, je veux que tu nous parles un peu du mode manuel, puis je veux que tu me convainques de l'utiliser.
Ben, en fait, oui, ça devrait pas être trop difficile. Il y a des situations où c'est vraiment nécessaire de travailler en manuel, d'autres où c'est peut-être moins pertinent, mais on a quand même toujours un peu plus de précision avec le mode manuel, en fait.
Oui, mais si on recommence un peu par la base, puis tu m'expliquais un peu le triangle d'exposition, pour ceux qui connaissent moins ça, c'est quoi la base même? Tu sais, on a différents éléments quand on joue avec la lumière sur un appareil photo ou un drone. Mais si on revenait un petit peu au départ pour être sûr de bien comprendre la chose, peux-tu nous expliquer un peu ça?
Ben oui, en fait, un drone ou un appareil photo, un drone, c'est un appareil photo volant, si on veut, c'est exactement les mêmes règles. C'est-à-dire qu'on est basé sur trois paramètres qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire la sensibilité à la lumière, ce qu'on appelle l'ISO, un temps d'exposition qu'on va appeler aussi souvent la vitesse, et le troisième élément, c'est l'ouverture, le diaphragme, qui est souvent ou toujours même illustré par et précédé par la lettre F, oui. Donc F quelque chose. Dépendant du drone qu'on va utiliser, là, on a un Mini 4 Pro devant nous, mais les utilisateurs de Mavic, par exemple, ont accès à changer la valeur F ou le diaphragme, justement. Sur les appareils comme les séries Mini, les Air, et même, je crois, la Vata, corrige-moi si je me trompe, on est sur des valeurs d'ouverture fixes.
Oui.
C'est-à-dire, c'est toujours la même valeur. Par exemple, dans le cas du Mini 4 ou Mini 3 ou même le Mini, le Mini 2, Mini 1, c'était des 2.8, ouais. L'ouverture 2.8. Et sur les nouveaux plus récents, non Mini 3, Mini 4, c'est du 1.7. Alors, à quoi riment ces chiffres-là réellement? Plus le chiffre est petit, plus il entre de lumière au travers de l'objectif. Et donc, ça favorise généralement un meilleur temps d'exposition. Pour la photo, ça, en fait, c'est parfaitement... C'est ça qu'on veut. Plus il y a de la lumière qui entre, plus c'est facile à photographier. C'est la même chose avec un drone. Et d'autant plus que la valeur F, on l'utilise souvent en photographie pour contrer la profondeur de champ, pour en avoir plus ou moins. La profondeur de champ, c'est la zone qui est nette versus la zone qui est floue. Ouais. Avec un drone,
c'est moins pertinent.
On n'a pas cette préoccupation-là parce qu'on est en vol, on est souvent loin du sujet.
Loin du sujet, ta profondeur va être la même que tu sois à 50 pieds ou à 75.
Exactement, ce qu'on appelle l'infini, en fait. Malgré tout, ces drones-là ont la possibilité de faire la mise au point plus rapprochée si on veut. Par exemple, si tu voulais te prendre en selfie avec ton drone, ce que tu pourrais faire n'importe quand, tu mets ton drone devant toi à courte distance, tu pourrais demander la mise au point spécifique sur un endroit. Donc, et là, ça générerait la mise au point sur toi, sur le sujet, et ça pourrait peut-être influencer l'arrière-plan à courte distance. Mais reste que, comme on disait, la valeur F a plus ou moins d'importance. La valeur d'ouverture, donc, c'est pas ce qui va nous préoccuper. Ça va être plus le temps d'exposition et surtout la sensibilité à la lumière. Oui, c'est ça. En automatique, ces paramètres-là sont tous gérés automatiquement par l'appareil ou par le drone, si on veut. En mode manuel, on a le contrôle, pas sur l'ouverture parce que c'est une valeur fixe dans les Mini et les Air et les Avata. Par contre, si on allait sur un Mavic 3, 4, par exemple, 4 qui vient juste d'être annoncé, alors on aurait la possibilité de varier la valeur F, l'entrée de lumière, ce qui nous permettrait de jouer avec les autres paramètres. Mais dans le cas des appareils plus consommateurs, si on veut, on ne variera pas cette valeur-là.
Les appareils grand public, comme les Mini.
Grand public, les Mini, puis à la limite, les Air, pour ceux qui ont une licence de pilote de bord.
Mais c'est ça, l'avantage de ces Mini-là, Mini 3, Mini 4 Pro, c'est des appareils qu'on n'a pas besoin de licence parce qu'ils sont en bas de 250 grammes.
Exactement. Donc, ça démocratise beaucoup le vol, ça démocratise la photo et la vidéo en mode drone, en mode aérien, si on veut. Et puis, ce qui est génial, en photo, on va pouvoir travailler en manuel autant qu'on veut, comme en vidéo, mais en vidéo, c'est encore plus pertinent parce que en vidéo, il y a une règle qui est la règle du 2 pour 1, en fait. Mm-hmm. Quand on travaille, par exemple, en vidéo à 30 images secondes ou à 60 images secondes, la fluidité varie selon ce qu'on va vidéographier ou à quelle vitesse on déplace le drone.
Oui.
Plus il y a d'images à la seconde, plus c'est fluide, moins qu'il y a d'images à la seconde. Donc, plus ça pourrait saccader un peu, ce qu'on appelle faire du blocage momentané. Là.
Généralement, on le voit bien, tu sais, quand on met notre bras devant, c'est flou, c'est trop net.
Exact, exact. Alors, dans le cas de la vidéo, ce qu'on va recommander, ce qui est la règle non écrite, mais qui est quand même une règle presque officielle, c'est qu'on va utiliser un temps d'exposition, donc la vitesse, deux fois le nombre d'images à la seconde. Par exemple, dans un drone, si je filme à 30 images secondes, j'ai besoin d'au minimum un soixantième de seconde. Et en même temps, c'est la vitesse parfaite pour filmer à 30 images secondes. Si je filmais à 60 images secondes, j'aurais besoin à ce moment-là 1/120 ou 1/125 de seconde. Ouais. Sur les séries mini, on n'a pas le 1/120, c'est vraiment 1/125 de seconde.
Et si on fait un comparatif, par exemple, en cinéma, généralement, ils vont filmer à...
C'est 24.
C'est 24, j'avais un blanc. Et à la télé, ça va être un peu plus rapide.
Exact. Oui, pour la fluidité. Oui. Puis en fait, pourquoi on parle de fluidité? C'est parce qu'en vidéo, surtout en vidéo, on veut essayer de garder un aspect naturel à nos vidéos. Donc, quand on filme à un temps d'exposition, par exemple, qui est dans les... parce qu'en plein jour, on sait que le temps d'exposition va être très élevé. Et vu que l'entrée de lumière dans l'objectif est très, très lumineux, le temps d'exposition est très, très pompé vers les valeurs très élevées.
D'où l'usage qu'on peut faire après ça des filtres ND.
Des filtres, exactement. Et sont souvent très recommandés, pour pas dire essentiels. Ouais. Les amateurs verront peut-être pas cette finesse-là, mais les gens un petit peu plus habitués vont voir la différence entre une vidéo qui a été tournée avec un temps d'exposition très, très rapide, comme par exemple 1/1000 ou 1/2000 de seconde, ce qui est parfait en photo, c'est ça qu'on veut d'habitude, mais en vidéo, c'est très numérisé, c'est très digitalisé, j'aime pas ce terme-là. On dirait que c'est pas naturel, c'est trop net.
Ouais.
On n'a pas l'effet de mouvement naturel.
C'est un peu le défaut que moi, personnellement, je reproche un peu à GoPro. Quand tu utilises une GoPro, par exemple, tu as une signature visuelle qui est facilement reconnaissable.
Oui.
C'est extrêmement net, c'est très sharp, puis ça peut quasiment être déstabilisant.
C'est un peu embêtant, c'est ça, les vidéastes un peu plus engagés vont préférer, même on peut mettre sur un GoPro, par exemple, un filtre aussi.
Oui.
Alors, les filtres, à quoi ils servent en réalité? C'est qu'ils enlèvent de la lumière, comme on ne peut pas varier la valeur de diaphragme dans l'objectif, on peut mettre un filtre qui retient la lumière. À ce moment-là, ça fait descendre le temps d'exposition. Et c'est pour ça que c'est important d'être en manuel, parce que si tu es en automatique, l'appareil va compenser par un changement automatique de l'ISO, et c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est contrôler au moins l'élément ISO et l'élément vitesse.
Bien, c'est un peu là qu'est la différence, justement, entre le mode automatique et le mode manuel. Le mode manuel, c'est un peu plus créatif. On est un peu plus en contrôle de ce qu'on obtient comme image, comme vidéo, versus automatique, qu'on remet un peu la charge à l'appareil de le faire.
Littéralement, la charge à l'appareil. Et dans ce temps-là, quand on n'est pas trop content, on se dit « Bah, mon drone n'est pas bon. » La seule personne à qui on devrait lancer la pierre, c'est à nous-mêmes.
Généralement, c'est ce qu'on appelle des codes 18. Là. C'est à 18 pouces de l'écran que le problème se trouve. Là.
Exactement. Donc, dans ce contexte-là, travailler en manuel, en vidéo, je te dirais, c'est un no-brainer. En vidéo, tu devrais travailler en manuel pour les mêmes raisons qu'on s'est expliquées, pour avoir deux fois le temps d'exposition sur le nombre d'images secondes et avec des filtres, presque automatiquement avec des filtres, à moins d'être en soirée. Mais là, en soirée, on se retrouve avec un autre genre de problème.
C'est un autre défi.
Exactement. Qu'on pourra discuter peut-être dans un autre épisode, parce qu'effectivement, la photo ou la vidéo nocturne, c'est un petit peu plus complexe avec un drone, mais ça se fait. Très bien.
Oui, bien, les résultats vont être différents, mais encore faut-il connaître son appareil et comment l'exploiter adéquatement.
Voilà,
là.
Exactement.
Alors Yves, on serait un peu rendu à l'étape de nous montrer un peu comment fonctionne justement le volet un peu manuel sur la télécommande de DJI. Pour l'exemple d'aujourd'hui, bien là, on va utiliser celle de la Mavic 3. C'est un peu le même principe sur les Mini 3, Mini 4 Pro.
Tout à fait.
Fait que je te laisse aller.
Ben, dans la capture d'écran, ce qu'on voit en gros, ben en fait, on voit notre installation.
Oh. Oui, présentement, voici à quoi ressemble un peu le studio. Là. Vous avez un petit look.
C'est l'arrière-plan, comme on dit. Alors, l'idée en arrière de ça, c'est d'aller chercher la meilleure lumière possible.
Oui.
Comme il y a deux fonctions sur ce type de drone-là, sur les drones en général, photo ou vidéo, ça se ressemble énormément.
Oui.
Il y a quelques variantes, mais disons que pour la photo, on n'est pas toujours obligé de travailler en mode automatique. On peut travailler en manuel ou en automatique, mais en automatique, on peut faire quelque chose de bien. En vidéo, c'est très différent.
Oui, c'est un autre pattern. Mais par contre, au départ, on pourrait peut-être réexpliquer un peu le triangle pour bien comprendre un peu justement dans quoi qu'on joue.
Absolument. Donc, si j'entre dans la manette et que je passe ça en mode professionnel, qu'on active les paramètres en touchant tout simplement, ils sont les chiffres, on se retrouve avec en haut complètement l'ISO, au centre un dixième, c'est le temps d'exposition, l'obturation, et l'ouverture qui est à 2.8. Dans le cas du Mavic 3, c'est 2.8, l'ouverture maximale, et on a aussi la possibilité, si on veut, de varier l'ouverture, on peut ouvrir ou fermer le diaphragme selon les besoins, ce qu'on ne peut pas faire sur les séries mini, par exemple.
Oui.
C'est une ouverture fixe, soit à 2.8, soit à 1.8, selon le modèle qu'on va utiliser. En partant, il faut savoir que plus le chiffre est petit, plus la lumière entre.
Exact.
Donc, on a un avantage à travailler à une valeur d'ouverture ou une valeur F, parce que habituellement, c'est précédé par la valeur F en photographie, avec une valeur qui est plus faible, plus petite. Ça entre plus de lumière et ça facilite la capture d'image. Donc, actuellement, dans l'écran, on voit 2.8, on voit 1 sur 10, qui est un dixième de seconde. On va revenir tantôt là-dessus. Et ISO 100. À un dixième de seconde, on est un peu dans le trouble.
Surtout s'ils vendent.
Surtout s'ils vendent avec un drone. Même sur un trépied, un appareil photo traditionnel, s'ils vendent un peu, on est un peu dans le trouble.
Oui, parce qu'on va se le dire, généralement, en bas d'un trentième de seconde, généralement, le moindre petit mini...
Le moindre mouvement va embêter tout
exactement,
ça.
Exactement.
C'est un showstopper.
Oui.
Donc... Normalement, on voudrait travailler un temps d'exposition. Plus ils vendent, plus je vais vouloir un temps d'exposition rapide avec un drone. Donc, possiblement, dans des valeurs qui vont se retourner autour de peut-être un 500e à 1 millième de seconde. Plaçons-le ici à un 400e de seconde. Gardons en tête qu'on n'est pas à l'extérieur. Donc, il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais pour compenser le fait que je n'ai pas beaucoup de lumière, j'ai un paramètre qui s'appelle l'ISO que je peux réajuster justement pour être capable de compenser le fait que j'ai augmenté mon temps d'exposition.
Ouais.
C'est, en photo et en vidéo, c'est la même chose.
C'est la même logique qui s'applique.
En drone ou en appareil photo ou en appareil vidéo, c'est aussi la même chose.
Exact. Et le résultat sera le même si on met l'ISO un peu trop dans le tapis. On va se ramasser avec une photo qui va être granuleuse.
Oui. Plus, effectivement, la valeur ISO est élevée, comme présentement, 6400, plus je vais me retrouver avec un grain ou un bruit numérique élevé.
Ouais. Alors, évidemment, on ne le voit pas nécessairement
toujours.
On ne le voit
pas à l'écran, c'est ça.
Mais on va le voir sur son ordinateur.
Tu vas le voir pas mal à l'ordinateur, effectivement. Surtout quand on va passer. Des fois, on veut retoucher un peu la luminosité. C'est là que les paramètres sont importants. Plus l'ISO est bas, mieux c'est.
Ouais.
On sait, on n'a pas le choix. On essaie toujours de garder la meilleure qualité d'image.
Exact.
La règle aussi, en vidéo, puis là, on est en photo, mais si je passe l'appareil en vidéo, donc en sélectionnant vidéo sur la télécommande, présentement, on est en mode automatique.
Mm-hmm.
Donc, l'appareil gère lui-même sa luminosité. Comme je vois très, très bien devant moi. Si je passe ça en mode pro, qui me permet de faire justement les ajustements de vitesse ouverture ISO, toujours les mêmes paramètres. Présentement, mon ISO est à 3200 pour être capable de compenser un temps d'exposition de 1/200e de seconde. Il faut dire qu'en vidéo, on va préconiser le temps d'exposition comme étant la deuxième valeur la plus importante après l'ISO pour la qualité d'image parce que on va essayer de garder, c'est une règle, on va essayer de garder le temps d'exposition à une valeur deux fois plus rapide que le nombre d'images à la seconde.
Oui.
Donc, la fluidité est beaucoup influencée avec le nombre d'images à la seconde. Mais en général, si on veut avoir une image fluide, on va dire qu'un 1/60e de seconde, c'est pas mal un standard.
Oui, parce que généralement, quand on filme avec un appareil, si on veut se rapprocher un peu de l'effet cinématographique d'une séquence, on va être à 24 images secondes ou 30 images, dépendant de ce qu'on veut, mais grosso modo, on va se tenir dans ces standards-là.
Exact. Donc, par exemple, si je décide de travailler, on va sortir présentement des ajustements, mon mode de prise de vue actuellement en vidéo est 4K à 60 images secondes, ça m'indique bien 60 images secondes. J'aurais intérêt à l'intérieur ici de travailler à quelque chose comme un 30 images secondes, puisque je ne vais pas avoir besoin d'avoir un temps d'exposition qui va être trop élevé. Donc, j'aurai la possibilité de travailler à 1/60e de seconde. Et mon ISO, à ce moment-là, je peux le garder à une valeur plus faible. Par exemple, ISO 800 serait parfaitement convenable ici pour ce qu'on garde actuellement.
Donc, moins de bruit.
Moins de bruit.
Une meilleure qualité de l'image, puis une image qui est constante en fonction du nombre d'images secondes.
Oui.
Parce que comme on le sait, plus ça va être décalé, plus qu'on va avoir de la problématique, par exemple, quand je fais un mouvement de bras ou un truc comme ça, on va le voir saccader ou on va le voir flou. Là.
Exact. Puis j'essaye de garder l'image le plus fluide possible. Donc, 60 images secondes, c'est l'ultime qualité pour la fluidité. Mais 30 images secondes, quand ça bouge pas trop, c'est parfaitement acceptable. Il n'y a pas de souci avec ça.
Mm-hmm.
Donc, je vais entrer dans les paramètres pro, je peux faire mes ajustements. Si je bouge un paramètre, par exemple l'ISO, je le mets à 200, je vais devoir corriger par un autre paramètre en vidéo et baisser à 30 images secondes. Et là, je me retrouve avec une image qui est même à la dernière ligne en bas, légèrement sous-exposée.
Ouais.
Et comme je ne peux plus ajuster l'ouverture à une plus grande ouverture, je suis au minimum déjà.
Faut que tu le corriges ailleurs.
Faut que je sois corrigé ailleurs.
Exact.
Possiblement sur l'ISO. Et c'est là que plus on augmente l'ISO, évidemment, plus on se retrouve avec du bruit, puis moins on est heureux parce qu'on perd un peu de qualité d'image.
C'est peut-être ça qu'on veut. Mais règle générale, on préfère une image qui va être beaucoup plus nette.
Notons que le bruit, on peut toujours le corriger par des logiciels, mais c'est une autre dépense, là.
Oui, exact. Puis c'est un peu le principe qui est un peu contre-productif. Le but, c'est de pouvoir, à la source, déjà régler tous les problèmes pour s'éviter du travail par après.
En ce qui me concerne, je préfère tout de suite avoir la bonne image tout de suite à la prise de vue. Moins de travail au final, puis une image à la fin qui va être de meilleure qualité.
Exact.
Si on allait en photo.
Oui, pardon.
Parce qu'en photo, il y a quelque chose de particulier qui est intéressant. Donc, on va repivoter l'appareil en mode photo. Si on travaille en mode automatique, l'appareil gère vitesse ISO. L'ouverture est déjà gérée par sa plus grande ouverture. Mm-hmm. Il est possible de faire de la capture, de ce qu'on appelle faire du bracketing.
Oui.
Et actuellement, j'accède le bracketing par le petit bouton qui est au-dessus du bouton de prise de vue. AEB, Auto Exposure Bracketing, me permet de choisir 3 ou 5 images en bracketing. Bien, on va choisir 5, puis on va se demander c'est quoi le bracketing
au final. Parce que le bracketing, grosso modo, c'est quelque chose qui est très intéressant quand on sait un peu ce qu'on fait. Le but du bracketing, c'est qu'on prend une photo avec une valeur neutre et dans le cas présent, on en a choisi 5. 2 photos qui vont être sous-exposées de plus en plus et 2 photos qui vont être surexposées de plus en plus. Mais au final, le but de ça, c'est d'arriver dans un logiciel...
Une seule image.
Exact.
Ouais.
C'est de pouvoir corriger autant tous les niveaux. Ce que je veux dire, par exemple, j'ai une photo, je ne sais pas où est-ce que j'ai un ciel qui est blanc puis le bas de mon image qui est une forêt très foncée, je peux arriver à niveler un peu pour arriver à quelque chose de mieux.
Le bracketing laisse sous-entendre qu'on va fusionner ces images-là pour créer une image en HDR.
Oui.
HDR, qui est un terme que vous connaissez peut-être pas, mais qui, en anglais, dit high dynamic range.
Oui.
En français, on va dire plage dynamique étendue. Donc, la plage dynamique, c'est l'écart entre la zone de lumière la plus faible et la zone de lumière la plus élevée, le ciel et la forêt qui est dense. Quand on prend notre bracketing, 5 images, on se retrouve à aller chercher toutes les zones de lumière dans 5 photos et en le fusionnant dans un logiciel comme par exemple Lightroom ou Photoshop et d'autres qui existent aussi, je suis capable d'aller extraire les meilleures zones de chacune de ces images-là, fusionner ces 5 images-là et en faire une seule avec la plage dynamique étendue.
Ouais, pour faire une image un peu extrême, c'est choisir tes 5 meilleurs joueurs de hockey pour te monter ton équipe puis d'arriver à un résultat que tu veux avoir.
Mon meilleur groupe de 5 joueurs, exactement, effectivement. Et petite confidence, quand je travaille en photo, je travaille toujours en bracketing. Il y a 2 bonnes raisons de travailler en bracketing. La première, c'est qu'on se retrouve avec une plage dynamique étendue. C'est toujours souhaitable.
Mm-hmm.
La deuxième, c'est que en fusionnant plusieurs images, je réduis le bruit numérique parce que le bruit s'annule en combinant les images ensemble.
Ouais.
Donc, si on travaille dans une zone ou une situation de plus basse lumière où l'ISO est un peu plus élevé, ça élimine en quelque sorte une partie du bruit numérique déjà à la prise de vue. Donc, ça me facilite un peu mon travail. J'ai moins de temps à passer à corriger le bruit numérique. Et ça donne généralement une plage dynamique étendue, va donner une image qui est très proche de ce qu'on voit même à l'œil, alors qu'une seule photo au neutre va nous donner la lumière moyenne, mais pas nécessairement le bon équilibre entre les hautes et les basses lumières.
Oui, parce que quand même, avec ton RAW, tu peux le corriger un peu. Jusqu'à un certain point. Mais bracketing, c'est comme si tu t'ajoutais encore une plus large plage de modification.
Ce qui est merveilleux, c'est que tu peux faire du bracketing en RAW.
Oui.
Donc, imagine l'étendue de ta plage dynamique au final, et c'est toujours comme ça que je travaille et ce que je recommande aussi. Ça va recommander aussi de travailler dans un logiciel. Il faut le passer le temps, mais les logiciels sont rendus tellement intelligents
que c'est rapide.
Ça se fait sans que tu aies trop d'efforts à faire, tu dis, je veux ces cinq images-là en mode HDR. Le logiciel va faire tout seul les ajustements et tu as toujours le droit de veto sur ce que tu veux. Tu peux toujours redéfinir ton image en disant, non, je veux un peu moins ou un peu plus de ci, un peu plus de ça.
Oui, parce qu'à la limite, dans ton logiciel, tu peux même dire, bon, mais j'en ai pris cinq photos bracketing, mais finalement, j'en veux juste trois.
Trois, exact. Tu peux prendre les deux extrêmes, la plus sombre et la plus claire.
Exact.
Des fois, ça fonctionne. Alors, le mode bracketing est disponible dans tous ces appareils de la série Mini, évidemment dans les Air, dans les Mavic, dans les appareils professionnels.
Oh, même les boîtiers, tout ce qui
et
est...
Et tous les appareils photo, sans dire tous les appareils photo, oui, tous les appareils photo modernes, on peut faire 3, 5, 7 et même dans certains cas, 9 images en bracketing. Si on me dit, c'est un peu extrême. Mais des fois, quand la plage dynamique est très étendue, 7 ou 9 images, c'est nécessaire.
Ça peut être pertinent.
Ça peut être pertinent.
Bien, écoute, c'est très intéressant. Je pense qu'on a fait pas mal le tour sur ce sujet-là. Mmh. Un grand merci à toi.
Voilà ce qui complète pour l'épisode d'aujourd'hui. J'aimerais en profiter pour remercier M. Yves Pinsonneau ainsi que Laure Photo pour leur participation à l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez des besoins en termes de photographie ou en termes de drone et que vous voulez par la même occasion encourager les commerces locaux, bien, je vous invite à le faire en vous déplaçant au Laure Photo .ca ou sur place en boutique directement à Saint-Jean-sur-Richelieu sur le boulevard Saint-Luc. Pour ce qui est du reste, si vous avez apprécié, abonnez-vous à la chaîne et faites-nous part de vos commentaires. Et moi, entre-temps, je vous dis à une prochaine fois pour un autre épisode du Photo Photo Podcast. Ciao!